Merci d'écouter RFI, les minuit ici à Paris, 2 heures de moins en temps universel.
24 heures en France.
Bienvenue dans cette demi-heure d'information consacrée à l'actualité française. 24 heures en France, largement consacrée à la disparition du pape ce lundi.
Simon Bourtembourg.
Le journal pour commencer avec à la une cette ultime veillée à Notre-Dame de Paris en la mémoire du pape François. La cathédrale accueillait une troisième prière qui vient de se refermer. Dès ce lundi matin et l'annonce de la mort du pape François, des centaines de fidèles se sont rassemblés sur le parvis de l'emblématique Notre-Dame. Témoignage dès le début de ce journal et reportage dans la deuxième partie de 24 heures en France. Le pape François, fervent défenseur de la cause des plus démunis et artisan de la fraternité entre les peuples, nous entendrons l'archevêque de Marseille et le recteur de la grande mosquée de Paris, deux hommes de foi qui, vous le verrez, ont eu l'occasion de rencontrer le souverain pontife.
24 heures en France.
À la une de l'actualité également, le déplacement d'Emmanuel Macron dans l'océan Indien. À Mayotte hier, la réunion ce mardi, le président français entame une tournée de 5 jours loin de Paris. Un reportage dans cette édition et c'était évidemment à la une du journal des Outre-mer dans 20 minutes. Et puis, il dénonce une punition collective. 27 élus de gauche sont interdits d'accès en Israël. Ils étaient pourtant invités par le consulat français à Jérusalem. Les détails en fin d'édition.
RFI.
La tour Eiffel éteinte en hommage au pape François. Le geste est symbolique mais fort. La dame de fer illumine d'habitude la capitale française. Il faut dire que la disparition du souverain pontife en ce lundi pascal a provoqué une vague d'émotions à travers le monde. En France aussi, dès l'annonce du décès de François, les cloches de Notre-Dame ont sonné 88 fois, l'âge auquel le pontife s'en est allé. Et puis très vite, de nombreux fidèles se sont réunis sur le parvis de la cathédrale parisienne pour un moment de communion. C'est notamment le cas de Muriel, catholique pratiquante, qui a choisi de garder en François l'incarnation d'un pape réformateur.
L'image d'un pape qui se souciait des plus pauvres, qui collait beaucoup, je trouve, à l'actualité du monde, de tous les pays dont on se préoccupe moins. Ben, il a écrit des encycliques qui sont vraiment, pour moi, prophétiques, quoi, qui sont des messages à méditer toujours.
Un pape salué pour son engagement en faveur des plus démunis. Flore se félicite, elle aussi, que le pape François ait réussi à attirer une nouvelle génération de catholiques.
J'ai plutôt l'image d'un pape qui a été assez réformiste, quoi. Il a essayé un peu de faire trembler les traditions un peu durant son pontificat et je trouve ça beau aussi parce qu'il faut aussi pouvoir attirer d'autres jeunes parce que la foi, ça se perd. Moi, je pense que ça a pu permettre à des jeunes de s'intéresser davantage et de casser un peu les normes et le côté trop rigide de la religion catholique.
Un témoignage de fidèles recueilli ce matin par Baptiste Coulon sur le parvis de Notre-Dame, à la cathédrale parisienne où le pape ne s'est pas rendu en décembre dernier à l'occasion de la grande cérémonie de réouverture du lieu de culte. Mais en 12 ans de pontificat, François a effectué tout de même 3 déplacements en France. Le premier, c'était à Strasbourg en 2014, le dernier en Corse il y a un peu plus d'un an. Mais c'est son déplacement le plus mémorable dans l'Hexagone, ça restera sans doute celui de Marseille, c'était en 2023. Une visite de 2 jours lors de laquelle 350 000 personnes se sont massées dans la cité phocéenne pour apercevoir le pontife. Une venue qui était pour clôturer les rencontres méditerranéennes organisées par le cardinal Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Marseille qui nous fait part de son émotion et de ses souvenirs avec François.
Moi je retiens surtout cette proximité toute familiale. Et j'ai eu à cœur de montrer aussi aux Marseillais que ce pape-là faisait partie de la famille. Donc pour moi, ça a été un moment très important, une expérience aussi personnelle, très profonde. Et lui a été très touché.
Jean-Marc Aveline qui présidait ce soir une messe d'hommage à la cathédrale de la Major à Marseille. Et ce lundi en France, la mémoire de François a aussi été saluée par les leaders musulmans et juifs. Le grand rabbin de France se souvient de l'engagement du pape dans la lutte contre l'antisémitisme et de sa volonté de créer des liens de confiance à travers le monde. La fraternité entre les peuples, un mantra qui a guidé le pontificat de François. Confirmation avec Shems Eddine Hafiz, le recteur de la grande mosquée de Paris. Il a eu l'occasion de rencontrer le souverain pontife, il s'en souvient.
Au moment où je suis rentré dans son bureau à Sainte-Marthe, je lui ai offert une traduction du Coran. Il l'a pris de ses mains, il l'a embrassé, ce qui m'a touché à ce moment-là. Alors en ce qui concerne les musulmans, dès le début de son pontificat, quand il s'adressait aux musulmans, il nous appelait mes frères et mes sœurs. Il était surtout sensible. Il n'acceptait pas que les musulmans soient l'objet d'attaques, de discriminations. Il ne faut pas oublier qu'il a été en 2019 jusqu'à Abu Dhabi, signé un accord avec le grand imam d'Al-Azhar. Donc voilà, il voulait vraiment montrer l'intérêt qu'il avait pour l'islam et pour les musulmans. Oui, le pape représente l'Église catholique, mais je crois qu'aujourd'hui, il est un peu notre papa à tous.
Le recteur de la Grande Mosquée de Paris au micro RFI de Lou Ecal. Enfin, la classe politique française a également rendu hommage au pape François. Emmanuel Macron a salué un homme toujours aux côtés des plus vulnérables et des plus fragiles. Il n'avait peur de rien, il voulait réformer l'Église. De son côté, réagit le Premier ministre François Bayrou.
24 heures en France.
RFI minuit 6, ici à Paris, dans l'actualité française également, le déplacement d'Emmanuel Macron à Mayotte. Le président français était hier à 8000 km de Paris aux côtés des Mahorais, 4 mois après le passage dévastateur du cyclone Chido. Emmanuel Macron a notamment annoncé un plan de refondation du département français. 3 milliards d'euros seront déployés ces 6 prochaines années pour reconstruire Mayotte où 40 personnes étaient mortes en décembre dernier. Le président français a aussi voulu rappeler l'engagement de l'État pour valoriser la position géographique de l'archipel et son développement régional. Valérie Gasse.
Mayotte a un avenir dans cette région. C'est par ces mots qu'Emmanuel Macron a conclu son discours devant les élus. Cette région de l'océan Indien et cette position stratégique au nord du canal du Mozambique sont des atouts. Et dans sa tournée, le chef de l'État entend bien les valoriser.
La chance, et ça c'est l'exclusivité de Mayotte, c'est le canal du Mozambique. Et ce canal est en train de se développer. Eh bien, nous souhaitons que Mayotte y prenne toute sa place.
Une ambition que revendique aussi le président du conseil départemental, Benissa Ousseni.
Les perspectives de développement dans le canal de Mozambique sont une opportunité pour Mayotte. Notre territoire peut être la tête de pont de la France et de l'Europe vers la côte est africaine.
Quant à la députée mahoraise Estelle Youssoufa, elle y voit aussi un vrai chemin de développement pour Mayotte.
Moi, je rêve d'une desserte aérienne et portuaire qui nous permette de devenir une base logistique pour le canal du Mozambique, pour profiter de nos atouts, qui offrent un avenir pour nos enfants.
Emmanuel Macron, qui va se rendre au sommet de la Commission de l'océan Indien à Madagascar, va donc essayer de faire avancer le dossier de l'inclusion de Mayotte dans cette instance régionale.
Je vais plaider un discours très simple. La France tout entière a vocation à avoir sa place dans la COI. Et la France a plusieurs territoires dans l'espace de la COI, La Réunion et Mayotte.
Emmanuel Macron veut donner des perspectives à Mayotte. Valérie Gasse, Mayotte, RFI.
Le chef d'État qui est pour l'heure arrivé à La Réunion, un autre département français d'outre-mer touché, lui, par une épidémie de chikungunya. Le président français poursuivra ensuite son déplacement à Madagascar et sur l'île Maurice. Dans l'Hexagone, ces nouvelles attaques contre des prisons, des agents et des centres de détention ont à nouveau été pris pour cible la nuit dernière. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Un mineur a été interpellé et placé en garde à vue. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, dénonce des intimidations contre la République. Le mois dernier, déjà, plusieurs établissements pénitentiaires français avaient été attaqués. Je vous le disais en titre, un revers pour ces élus de gauche. Alors qu'ils devaient se rendre en Israël, ils ont vu leur visa tout simplement annulé, et ce, au dernier moment, par l'État hébreu. Une décision qui suscite évidemment de la colère et de l'incompréhension parmi les participants, qui appellent même l'État français à réagir. Les détails avec Aurélien Devernoy.
Ils auraient dû atterrir ce dimanche en Israël pour une visite de 5 jours à l'invitation du consulat français de Jérusalem. Mais mauvaise surprise vendredi pour les 27 élus composant la délégation. Leurs visas sont annulés, incompréhensibles pour le député apparenté écologiste Alexis Corbière.
C'est une forme de rupture de relations diplomatiques. Nous ne refusons pas l'entrée sur le territoire national à ma connaissance d'élus israéliens. C'est un geste agressif envers la France.
L'État hébreu estime que la délégation aurait pu agir contre les intérêts israéliens. Faux, selon l'élu communiste Philippe Rieu, président de l'Association des maires pour la paix en France.
Nous étions en lien avec le consulat qui avait validé notre parcours. Nous devions rencontrer aussi des représentants du peuple israélien à la Knesset. Ces arguments sont fallacieux.
Les membres de la délégation s'étonnent surtout du deux poids deux mesures avec des élus d'autres bords. Alexis Corbière.
J'observe que quand c'est l'extrême droite française, elle est accueillie par des membres du gouvernement. On a vu Marion Maréchal Le Pen, Monsieur Bardella, nous, des gens de paix, bon, nous sommes interdits. Ça interroge sur la nature de la démocratie israélienne.
Les 27 élus demandent donc à être reçus par Emmanuel Macron afin d'éclaircir la situation, tout en estimant que la décision d'Israël n'est sans doute pas étrangère à l'annonce du président français d'une possible reconnaissance par Paris d'un État palestinien en juin prochain.
Aurélien de Vernois du service politique de RFI. Un nouveau rapprochement entre la France et le Qatar sur le dossier culturel. Plusieurs accords ont été signés ce lundi entre des institutions culturelles françaises comme le musée d'Orsay et l'Orangerie, avec donc des institutions qataries, et ce afin de renforcer les collaborations entre les deux pays. Un communiqué a été publié en ce sens par l'État français. Et puis un mot de sport et de Ligue 1. Ce mardi soir, le PSG affrontera Nantes. Il s'agit d'un match en retard du championnat de France.
24 heures en France, Simon Bourtembourg.
On continue de décrypter l'actualité française, édition évidemment largement consacrée à la mort du pape François. Notre-Dame est en deuil en ce lundi de Pâques. Reportage dans quelques instants sur le parvis de la cathédrale où des fidèles se sont réunis pour rendre un dernier hommage au souverain pontife. La France et le pape, une relation parfois décriée. François n'était pas présent à la réouverture de Notre-Dame, mais nous le verrons, la France est pourtant le pays que le pape a le plus visité lors de son pontificat. L'historien Jean-Baptiste Noé est notre invité dans quelques instants. Assurez également vos rendez-vous habituels avec le journal des Outre-mer et le conseil santé de Caroline Paré. Voilà, vous avez le programme jusqu'à 22h30, temps universel, où vous retrouverez Zéphirin Quadio pour Afrique Soir.
RFI.
"88 coups de cloche à 11h précise ce lundi. La cathédrale Notre-Dame de Paris rendait un premier hommage au pape François dont on a appris le décès ce lundi matin. À l'intérieur de l'édifice religieux, un grand portrait de François trône désormais à gauche de l'autel aux côtés du cierge pascal allumé samedi soir. Depuis, plusieurs messes ont été célébrées en la mémoire du souverain pontife. La dernière a commencé à 20h et elle vient de se refermer. Reportage signé Sylvie Coffi.
Messieurs, dames, il n'y a plus de visite pour aujourd'hui, c'est uniquement la prière et la messe pour le pape. No more visit today.
Sur le parvis de Notre-Dame, une employée au parleur à la main lance en boucle ce message pour informer le public. Les fidèles sont en deuil, ils ont encore du mal à réaliser.
C'était un choc pour moi. Et donc, comme j'habite pas très loin en plus, donc je me suis dit c'est le moment de venir dans la nouvelle Notre-Dame qui a été restaurée pour un moment de recueillement et de prière. Voilà.
Comme lui, la mort du pape François a surpris de nombreux touristes. C'est le cas de cette jeune Espagnole.
Je pensais à un moment symbolique. On est très touché et il fallait être ici pour dire au revoir au pape François, que je pense que pour beaucoup de gens et surtout des jeunes, il nous a permis de nous rapprocher au christianisme.
Dans la file d'attente, Anne-Kate, originaire de l'île Maurice, est venue plus d'une heure à l'avance pour assister à cette messe et se recueillir.
Prier pour le pape, comme on visite Paris, ben, c'est pour aussi venir apporter notre prière pour le pape François. C'est quand même touchant et tout, il est venu à l'île Maurice en 2019, donc ça nous touche, nous les Mauriciens. Et comme c'est une figure emblématique, et ben, justement on est là pour ça, parce qu'il avait une belle approche pour les jeunes et pour les personnes qui sont marginalisées et tout. Donc on espère que le prochain pape suivra le même parcours.
Sous la pluie, certains abandonnent.
Non, on a vu qu'il y avait pas mal de monde et puis on n'est pas forcément de confession catholique à la base. On a voulu passer, on aurait aimé rentrer à l'intérieur quand même pour faire un petit tour et puis voir le portrait du pape installé à l'intérieur, mais ce ne sera pas le cas aujourd'hui.
Il est 18h, des centaines de fidèles suivent l'homélie qui résonne dans la cathédrale.
Rendons grâce pour la personne que fut le pape François, pour le ministère qu'il a accompli parmi nous. Demandons à Dieu de donner à son Église la grâce de l'unité. Implorons l'Esprit-Saint pour qu'il ne cesse de nous conduire sur les chemins que le pape François nous trace. Amen.
Encore sous le choc, cette famille toulousaine est très émue.
C'était très beau, très émouvant.
En tant que chrétien, c'est vraiment un jour qu'on n'oubliera pas.
Ça m'a touché, quoi. Je ne pensais pas que je pourrais assister à une telle messe en son honneur dans une telle cathédrale.
Les hommages continuent et certains fidèles se préparent pour la veillée.
Un reportage de Sylvie Coffi à Notre-Dame où l'absence du pape a marqué les esprits. C'était en décembre 2024. Le chef d'État du Vatican et de l'Église catholique n'était pas présent à la cérémonie de réouverture de la cathédrale. Lui qui était pourtant récemment venu à Marseille, il s'était contenté d'envoyer un texte qu'a lu l'archevêque de Paris. Dernier exemple en date donc d'une relation avec la France décrite par certains comme compliquée. Paradoxalement, la France, c'est aussi le pays que François a le plus visité lors des 12 ans de son pontificat. Amélie Beaucourt s'est entretenue avec l'historien Jean-Baptiste Noé.
Jean-Baptiste Noé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, rédacteur en chef de la revue Conflit et auteur de François le diplomate aux éditions Salvator. Jean-Baptiste Noé, le pape est venu en France à 3 reprises, à Strasbourg d'abord, à Marseille ensuite, puis à Ajaccio, c'est en Corse. Jamais à Paris. Qu'est-ce que cela révèle de son rapport à la France ?
D'abord qu'il aime beaucoup la France, contrairement à ce qu'on a pu dire ici ou là. En fait, c'est un pays auquel il est très attaché. Effectivement, c'est le pays qu'il a le plus visité durant son pontificat. Il n'a jamais été à Paris. Pourquoi ? Parce qu'il s'est fixé comme règle, comme les papes voyagent beaucoup depuis Jean-Paul II, d'aller dans des endroits où des papes n'avaient pas été. Or, Jean-Paul II et Benoît XVI sont venus à Paris. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles souvent il a été mal compris ou mal perçu. Effectivement, quand il a été à Strasbourg, il a fait un discours aux institutions européennes, donc il s'est d'abord rendu aux institutions avant de venir en France. Et puis Marseille, c'était dans le cadre de la Méditerranée, c'est un espace qu'il affectionne particulièrement. En fait, le voyage d'un pape s'inscrit toujours avec un message particulier. Donc à Marseille, c'était le message de la Méditerranée. À Ajaccio, c'est le message de la piété populaire, et notamment la façon dont elle est vécue en Corse. Donc c'était sur le territoire français. Il s'est d'ailleurs exprimé en français à Marseille et à Ajaccio, mais dans un cadre précis, la Méditerranée d'un côté, la piété populaire de l'autre.
On a souvent lu qu'il aurait peut-être pu bouder la France, ou en tout cas la classe dirigeante française, mais ça n'est pas le cas selon vous ?
Non, c'est pas le cas. Alors, on lui a un petit peu reproché de pas être venu à Paris pour l'inauguration de Notre-Dame, mais en fait, il n'a jamais dit qu'il viendrait. Il n'y a pas non plus de raison particulière qu'il vienne, même s'il a un attachement particulier pour Notre-Dame. Il a reçu régulièrement François Hollande et Emmanuel Macron au Vatican, selon les deux présidents avec lesquels il a eu affaire quand il était pape. Donc, il n'y a jamais eu de désaffection. Il y a au contraire une affection profonde. Il a reçu régulièrement au Vatican des intellectuels, des journalistes français, des écrivains français. Donc un lien d'attachement avec la France.
En parallèle, comment est-ce que vous décririez la relation entre les catholiques français et le pape François ?
C'est une relation qui était compliquée aussi. Il y a beaucoup d'affection. Quand il est venu en France, ça a été très suivi dans les médias, la radio, la télévision, beaucoup de personnes sur place, y compris beaucoup de non-catholiques. Et puis, il y a eu notamment le fait que le pape s'en prenne aux personnes attachées à la forme de la liturgie d'avant Vatican II, au fait qu'il combatte cette forme, qu'il réduise l'usage de cette forme liturgique. Ça lui a aliéné une partie des catholiques français attachés à cette forme liturgique. Le fait que sur des sujets théologiques, il ait fait preuve d'un peu de flottement ou que ses propos n'aient pas toujours été clairs, c'est vrai qu'il a pu heurter, être incompris, mal compris. Donc il y avait, on peut dire finalement, si on résume ça, une dissociation entre la personne et la fonction, un grand amour pour la fonction, mais un peu de distance à l'égard de la personne.
Vous diriez qu'il était perçu comme trop progressiste, par exemple ?
Sur certains sujets, oui, mais sur d'autres, il était parfaitement en ligne avec la vision traditionnelle de l'Église. C'est un homme qui est un peu insaisissable. Il était effectivement progressiste sur certains sujets, conservateur sur d'autres, et ça a parfois dérouté.
Jean-Baptiste Noé, merci beaucoup.
Merci à vous.
À l'historien Jean-Baptiste Noé au micro RFI d'Amélie Beaucourt, un entretien que vous pouvez réécouter quand vous le voulez sur notre site et notre application.
Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux. Sur nos pages Facebook, vous pouvez suivre, commenter l'actualité et dialoguer avec vos animateurs préférés. Restez aussi connectés avec nous sur Twitter et découvrez nos dernières images sur le compte Instagram de la Radio Mondiale.
2h19 à Saint-Pierre-de-la-Réunion, 2h de moins ici à Paris, à la suite de 24 heures en France.
Le journal des Outre-mer.
avec l'actualité des Outre-mer, une édition présentée aujourd'hui par Benoît Ferrand. Et à la une, le début de la tournée d'Emmanuel Macron dans l'océan Indien. Le président français était à Mayotte ce lundi et il sera ce mardi à La Réunion. Bonsoir Benoît.
Bonsoir. Une tournée que le chef de l'État achèvera par des visites à Madagascar et à l'île Maurice, mais ce mardi place donc aux problématiques réunionnaises, presque deux mois après le passage du cyclone Garance. Une visite placée, on peut en tout cas le supposer, sous haute protection sanitaire. Il serait en effet regrettable que le président et ses ministres ramènent à Paris le virus du chikungunya, ce qui est malgré tout possible, les moustiques ne faisant pas forcément la différence entre un épiderme présidentiel et celui de monsieur ou madame tout le monde. Il faudra donc être très vigilant, comme le sont d'ailleurs désormais tous les réunionnais. Écoutez ce reportage signé Jonathan Evrard.
Certaines choses où on n'en a plus du tout.
De nombreuses ruptures de stock dans ce magasin de puériculture à Sainte-Marie. Kelly, vendeuse, constate que ces dernières semaines, quasiment un client sur deux se déplace pour trouver le meilleur moyen de protéger les marmailles contre le chikungunya.
Tous les jours, on continue. Les moustiquaires pour poussettes, pour les lits, les patchs anti-moustiques, huiles répulsives, voire même les tatous pour les plus grands.
Des ruptures de stock à répétition également dans de nombreuses pharmacies. Dans cette officine dionysienne, par exemple, la vente de produits anti-moustiques a presque été multiplié par 10. Pour le gérant, Johan Damji, cette demande exceptionnelle va bien au-delà des personnes les plus fragiles.
Certains peuvent être plus à risque, mais certains peuvent développer des symptômes plus ou moins graves. Donc il faut que tout le monde se protège.
Pour Jean-Michel, par contre, c'est déjà trop tard.
J'ai été très vigilant, oui, mais bon, le moustique, vous savez, s'il veut vous piquer, il vous pique.
Comme Jean-Michel, malgré sa prudence, des dizaines de milliers de Réunionnais ont contracté le virus. Autre moyen essentiel pour se protéger du moustique, vecteur de la maladie, l'élimination des gîtes larvaires potentiels, c'est-à-dire tout ce qui peut contenir de l'eau stagnante et les déchets en tout genre.
Un tout autre sujet, comme partout ailleurs ou presque sur la planète, l'annonce de la mort du pape François a ouvert, entre guillemets, ce lundi matin, les bulletins d'information des Antilles et de la Guyane. L'occasion pour l'évêque de Cayenne d'évoquer au micro de la première un souhait qui ne s'est malheureusement pas réalisé, la venue dans le département français de l'Amérique du Sud du pape argentin. Écoutez Monseigneur Alain Rancé au micro de Patrick Clark.
Figurez-vous que je voulais absolument l'inviter, j'en ai parlé au nom, je dis j'aimerais bien que le pape vienne un petit peu en Guyane, parce que bon, j'avais ce rêve, et j'avais même envisagé qu'on aurait pu réquisitionner une partie de la piste, enfin de l'aéroport, pour pouvoir le recevoir, parce qu'évidemment quand il vient, ça charrie des foules. Mmh. Mais je me suis dit, bon, j'ai compris que ça allait être compliqué, puisqu'il a vu son état de santé, mais c'était un rêve que j'ai caressé, parce que c'est l'homme des périphéries, c'est l'homme qui s'intéresse aux endroits où les gens vont pas, où on va pas habituellement, là où il y a des petits peuples qu'on va pas voir. Et donc lui, il voyait que il y a récemment encore, il est allé en Corse, donc c'est plus petit que la Guyane, la Corse. Il y a moins d'habitants en Corse que chez nous, et pourtant il y est allé. Donc moi, je pense qu'il aurait pu venir ici, mais bon, évidemment, son état de santé ne le lui a pas permis.
Direction le Pacifique pour terminer avec l'opération militaire Croix du Sud qui débutera ce mardi à Wallis et Futuna. Un exercice de grande ampleur qui a nécessité pendant plus d'une semaine le transfert de troupes et de matériel, ce qui a créé une animation inhabituelle dans le petit archipel. Exemple ce dimanche avec l'arrivée à Matautu du Bougainville en provenance de Polynésie. Reportage Hakim Ali Saïd.
Un battement d'aile à quelques dizaines de mètres au-dessus du lagon de Wallis, l'armée de l'air souhaite ainsi la bienvenue à Matautu aux 34 marins du Bougainville. Ce bâtiment de la Marine nationale basé à Papeete depuis une vingtaine d'années, un bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer qui trouve toute sa place dans l'opération Croix du Sud. Il s'agit d'un exercice qui mobilise plus de 2000 militaires. Leur mission est de venir en aide à une population après une catastrophe naturelle. Pratiquement tous les ordres seront donnés en anglais dans cet exercice militaire d'envergure. Il s'agit de coordonner et de faire évoluer sur le même terrain d'un sinistre différents corps d'armée de différentes nationalités.
La satisfaction, c'est de voir l'accueil, le bon accueil qui est réservé par la population, par tous les Wallisiens et les Futuniens, et qui manifestement, comme moi, sont contents de voir ce soutien, cette fraternité des militaires à notre égard.
Le Bougainville accueille ce lundi de Pâques des habitants de Wallis et Futuna pour des visites guidées, des visites qui reprendront après l'opération Croix du Sud.
Fin de cette édition. Bonne soirée.
Ah, c'était Benoît Ferrand pour le journal des Outre-mer, tous les soirs en semaine dans 24 heures en France et à portée de clic à chaque instant sur notre site internet.
Le Conseil Santé avec Sumo Assurance.
Et à présent, comme chaque soir, votre conseil santé, Caroline Paré, reçoit le professeur François Desgrandchamps.
Professeur François Desgrandchamps, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes chef du service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis de Paris. La prostate fait partie de l'appareil génital des hommes et sa santé peut avoir des conséquences sur la fonction urinaire. Pourquoi ?
Parce que la prostate grossit chez tous les hommes, avec l'âge, à partir de 50 ans, et que l'urine doit passer au milieu. La prostate, c'est une glande qui est creuse, l'urine coule au milieu de la prostate. Et quand la prostate grossit, bah, l'écoulement est gêné, et les hommes le sentent, ils ont un jet plus faible, ils poussent, ils se lèvent la nuit.
Alors précisément, pour ces troubles urinaires, à quel moment est-ce qu'il faut vraiment aller consulter et poser des questions à un médecin ?
Le signe le plus précoce d'augmentation de taille de la prostate et de gêne de la prostate, c'est de se lever la nuit plus de deux fois. Une fois, c'est normal. À partir de deux, il faut vérifier. Et puis sinon, l'autre test, c'est un test biologique qui s'appelle le PSA, qui est un marqueur de cancer qui circule dans le sang et qui permet de savoir, avec l'urologue et le médecin traitant, où on en est pour sa prostate. Donc ce que l'on peut conseiller à partir de 50 ans, c'est si on se lève deux fois et ou si le dosage de ce PSA est un peu élevé, il faut consulter.
Il faut consulter, mais attention, un problème de prostate, ça ne veut pas dire à 100% cancer de la prostate.
Loin de là, et même s'il y a un cancer, la moitié des cancers sont des formes naturelles de vieillissement de la prostate, il ne faut pas les traiter. Donc c'est effectivement un domaine de spécialité.
Merci beaucoup, professeur François Desgrandchamps. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, on va parler de la voix, comment en prendre soin. On se retrouve à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Caroline Paré, et c'est ainsi que se referme cette édition de 24 heures en France. Un merci à Fabrice Violet à la réalisation et à Michael Ponge à la rédaction en chef. Dans quelques instants, place à Afrique Soir et puis un journal toutes les heures sur RFI. Mais avant ça, on file à New York pour parler de la bourse dans le rouge en ce lundi de Pâques.
Le rendez-vous de Wall Street.
Et la bourse, c'est évidemment avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones commence la semaine sur un nouveau plongeon de 972 points et revient à 38 170. L'indice du Nasdaq dégringole de 416 points et retombe à 15 871. Donald Trump continue d'accuser le patron de la Réserve fédérale, Jerome Powell, d'être, je cite, un gros loser. Il le surnomme « Monsieur trop tard » parce qu'il tarde, selon lui, à baisser le taux directeur de la Banque centrale américaine alors que l'inflation, dit-il, recule. En fait, Jerome Powell juge, comme le reste du comité monétaire de la Fed, que l'inflation aux États-Unis est encore au-dessus du niveau désiré et que le risque d'accélération de la hausse des prix est élevé en raison des hausses de droits de douane qui seront immanquablement répercutées au moins en partie dans les prix. Les attaques de la Maison-Blanche sur Jerome Powell s'accompagnent d'une menace d'un éventuel limogeage du patron de la Fed, possibilité constitutionnellement douteuse qui est néanmoins examinée par les conseillers du président. En attaquant l'indépendance de la Fed, en menaçant d'en faire une agence politiquement asservie à la Maison-Blanche, Donald Trump nuit à la crédibilité du modèle américain de gouvernance, il affaiblit le dollar et porte atteinte au crédit des États-Unis. Voilà pourquoi aujourd'hui l'euro bondit encore de près d'1% pour atteindre 1,1516, l'once d'or s'envole de 3% à un nouveau record de plus de 3 410 $ et le rendement du T-bond à 10 ans grimpe à 4,41. Le baril américain de pétrole recule de 2%, un peu plus de 63 $. L'indice Dow Jones aujourd'hui plonge de 2,5%. Le Nasdaq dévisse de 2,6%.
Pierre-Yves Dugas pour l'actualité des bourses américaines.
Appel sur l'actualité.
Édition spéciale d'Appel sur l'actualité ce mardi consacrée à la mort du pape François. Le souverain pontife s'est éteint à l'âge de 88 ans. Que retenez-vous de son pontificat? Comment vivez-vous sa disparition? On attend vos réactions.
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.
Le journal en français facile.
Bonjour, je m'appelle Priyanka et je suis indienne. J'écoute le français facile depuis un an. Les mots utilisés sont simples et très utiles pour la vie quotidienne. En tant que débutante, je l'ai trouvé génial car les podcasts proposent différents types de sujets intéressants décrits en français simple.
Le journal en français facile, c'est du lundi au vendredi à 16h TU sur RFI et quand vous le voulez sur françaisfacile.rfi.fr.